Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre dans cette émission Rencontre. Et comme chaque mercredi, c'est une émission avec le monde de la recherche que nous vous proposons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'espèces invasives et plus particulièrement d'espèces invasives dans le milieu aquatique, marin, sur les côtes de Charente-Maritime. Pour en parler, nous recevons Jacques Pigeot. Jacques Pigeot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur à la retraite.
Tout à fait.
Et vous exercez dans le lien.
Le lien littoral, environnement et société à l'Université de La Rochelle.
Donc, c'est un laboratoire?
Alors, c'est un laboratoire qui groupe plusieurs unités de géologie, de biologie, de géographie, de droit. Et je suis particulièrement relié à l'équipe d'IFEA, Dynamique fonctionnelle des écosystèmes anthropisés.
Alors, vous, c'est votre travail de... Alors, qu'est-ce que c'est que la dynamique fonctionnelle anthropisée?
C'est d'essayer d'abord de comprendre un petit peu comment fonctionnent les écosystèmes littoraux en partant d'inventaires et en regardant effectivement la dynamique des espèces, leur comportement, leur relation trophique et leur pérennité ou leur disparition. Donc, avec les espèces invasives, effectivement, on a du travail à faire.
Alors, dans notre région, ça concerne le littoral charentais.
Tout à fait.
Alors, une définition du littoral, c'est une zone qui va de
Alors, le
qui
littoral,
est sur la côte et qui s'étend un peu dans...
Alors, le littoral, en fait, nous travaillons plutôt sur les estrants. Parce que le littoral inclut les estrants, puisque c'est dans le fond un espace délimité, qui correspond de part et d'autre du trait de côte à une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres et au moins autant de l'ordre de 20 kilomètres en mer. C'est ça le littoral au sens géographique. Il n'y a pas de définition administrative précise, mais c'est vraiment ça le littoral. Nous restons sur l'estran, donc la partie qui découvre, qui est plus ou moins large. Donc, vous le savez, les marnages maximum sont de l'ordre de 6 mètres, ce qui fait qu'en fonction de la pente des lieux, on a des zones qui peuvent atteindre quelques kilomètres, voire moins, si la pente est extrêmement
Donc, les
importante.
Estrans sont les zones qui sont découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute.
Voilà, qui découvrent régulièrement, et plus ou moins, puisqu'on a quatre.
Alors, est-ce qu'il y a une particularité liée à ces milieux-là? Est-ce que c'est un milieu riche en espèces?
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en termes d'écologie un écotone. Donc, c'est à la jonction entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Donc, on a une grande, grande richesse d'espèces à ce niveau-là. On a, par exemple, pour les pertuis charentais, des inventaires qui ont été réalisés montrent en termes de biodiversité la présence, bon an, mal an, en termes d'espèces benthiques qui vivent sur le fond.
Benthiques, celles qui vivent sur le fond.
Qui vivent sur le fond.
Par opposition aux
qu'on dépose ou qui sont complétées par les espèces pélagiques qui vivent dans la colonne d'eau. On a en gros, en termes d'invertébrés, hein, je ne parle pas des poissons, ni des végétaux, des que sont les algues, et également quelques phanérogames qui sont présentes là, on a bon an, mal an, à peu près 1200 espèces.
C'est des espèces qui sont spécifiques à ces milieux-là ou qui vivent
plus loin dans l'océan Certaines sont spécifiques, d'autres effectivement peuvent aller dans ce qu'on appelle les étages infralittoraux, voire plus, peuvent descendre effectivement en termes de bathymétrie.
Alors, le littoral, c'est un milieu qui est exploité également sur le plan agricole. Hein, il y a des coquillages, il y a autant pour les pêcheurs que pour ceux qui cultivent les huîtres, par exemple. Donc, c'est aussi un milieu spécifique de ce point de vue-là.
C'est un milieu fort important, effectivement, en termes d'activité. Il y a à la fois les activités professionnelles en termes de pêche, mais également en termes de culture marine. On a, bien entendu, puisque nous sommes la première région au plan des productions et de la commercialisation des huîtres, mais il y a également de la moule, il y a également des palourdes, il y a également de l'aquaculture dite nouvelle, avec des espèces de poissons qui sont élevées au niveau des îles de Ré et d'Oléron. Il y a effectivement des en marée de salicorne, il y a beaucoup d'activités. Et il y a également, des pêches de loisirs qui sont extrêmement importantes, puisque sur les littoraux, par exemple, du pays de Marraine-Oléron, c'est-à-dire qui regroupe l'île d'Oléron et puis autour de Marraine un petit peu, on a quand même par an plus de 200 000 séances de pêche. Ça représente quand même un atout important au niveau des touristes.
Sans parler de l'intervention humaine, est-ce qu'on connaît l'origine du peuplement de ces espaces naturellement? Est-ce que c'est une prolifération de différentes espèces, une implantation qui se fait en suivant les lignes de côte, en fonction du climat? Puisque si c'est des espèces qui vivent spécifiquement sur le littoral, on peut difficilement imaginer qu'elles puissent traverser toutes seules les océans ou des zones plus importantes. Je parle bien sans l'intervention humaine.
Oui, j'entends bien. Oui, eh bien écoutez, la colonisation de ces milieux ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu. Il faudrait revoir ça au plan géologique, puisque ces milieux ont fluctué. On avait, il y a à peu près 20 000 ans, 18 000 ans, en gros, une presqu'île qui était 100 km plus à l'ouest, qui était à des altimétries de l'ordre actuellement de 100 mètres. Mais les espèces étaient présentes, sur les estrants découvraient à ce moment-là aussi. Et on avait on avait sans doute sensiblement les mêmes espèces, parce qu'on n'a pas de preuves systématiques, si ce n'est par les fossiles ou les coquilles que l'on peut retrouver. Mais ça, c'est pour les espèces qui présentent des tests durs. Les autres, on n'en sait trop rien. Au niveau des vers, par exemple, comment ça se passe, il n'y a pas d'études, à mon sens, spécifiques qui ont été faites là-dessus, parce que quelques vers possèdent effectivement des pièces cornées, mais qui se fossilisent difficilement.
Alors, on sait comment elles se déplacent naturellement pour recoloniser un milieu, à quelques kilomètres d'un lieu d'implantation, par exemple.
Il y a diverses stratégies en termes de reproduction. On a les espèces qui présentent à l'état embryonnaire une phase pélagique et qui vont à ce moment-là parcourir des kilomètres et des kilomètres. Par exemple, actuellement, il y a une thèse sur l'étrille, qui est un crabe qui est fort pêché sur nos côtes. Et on essaie de voir en termes de population si ce sont les mêmes entre l'Écosse, la Bretagne, nos côtes charentaises et les côtes de Galice et celles du Portugal. Vous voyez. Donc, pour ces espèces qui ont des phases pélagiques, il y a des aires de distribution qui sont extrêmement larges. Par contre, certaines ont ce qu'on appelle un développement direct, et là, effectivement, leur aire de répartition est beaucoup plus limitée.
Alors maintenant, concernant l'intervention de l'homme, donc c'est depuis que l'homme navigue, je suppose, ou qu'il s'intéresse au milieu du littoral pour l'exploiter, qu'il a eu une influence sur ces milieux.
Bah, tout à fait, c'est de tout temps, mais surtout depuis, en gros, enfin, depuis l'arrivée de l'homme sur nos côtes, hein, mais disons plus de manière plus importante, avec les grands voyages, les circumnavigations ont amené effectivement énormément d'espèces sur nos côtes. Bon, elles se sont adaptées, bien entendu, mais c'est surtout, il faut dire que l'invasion, enfin la présence de certaines espèces invasives s'est faite surtout depuis une quarantaine d'années avec les transports maritimes, avec fouling, eau de ballast, et puis
fouling de ballast, est-ce qu'on peut préciser ce que
oui,
c'est?
Oui, et puis l'aquaculture. Alors fouling, il s'agit d'espèces qui vont se fixer sur les coques de navires dans un endroit particulier. Le navire se déplaçant, il ramène les espèces sur nos côtes. C'est comme ça qu'on a des acidies, des espèces d'organismes qu'on appelle les pissous, là, vulgairement, qui se sont implantés sur nos côtes, ce qui est la clava pour ne pas la nommer. Les bananes aussi, par exemple, ce qui s'appelle en Charente maritime les cravants, et puis les algues aussi, qui ont été introduites sous ces formes-là, donc fixées sur les côtes de navires. Alors, ensuite, il y a les eaux de ballast. Les navires, dans le fond, pour se déplacer, sont amenés à charger des grandes cuves en eau pour ne pas être soumis le moins possible pour tenir la mer,
pour alourdir
quand ils n'ont pas de fret adéquate. Donc ces eaux sont prises à un endroit précis du globe et ensuite elles sont évacuées lorsque le navire arrive, par exemple, au large de La Rochelle, et à ce moment-là, ça peut introduire certaines espèces.
Tu expliques qu'on peut avoir des espèces originaires du Pacifique
Essentiellement, c'est vrai que la majorité des espèces invasives sur les côtes charentaises sont à plus de 50% d'origine du Pacifique.
Alors, est-ce que ces espèces-là qui sont transportées par l'homme concernent toute la gamme, si je puis dire, des espèces, les algues, les invertébrés?
Quasiment tous les groupes systématiques, comme on dit en termes scientifiques, sont concernés. On a effectivement des algues, des micro-algues. On a également des phanérogames, par exemple l'aspartine, hein, qui nous vient des USA et qui est très prolifique sur notre côte, Aspartine anglica, qui est une espèce d'herbe des vaches salées. On a bien entendu des éponges, mais pas chez nous, hein, sur d'autres côtes. On a des cnidaires, des cousins, des cousines des anémones, si vous voulez, des petits hydrozoaires, qui sont des petites anémones coloniales. On a également des vers, notamment un vers là, qui se développe dans nos ports de plaisance, Phycopomatus enigmaticus, qui est un vers qui fait des gros récifs de manière importante. On a bien entendu des mollusques, aussi bien des gastéropodes que des bivalves, hein, hein, mais l'huître, par exemple, la palourde sont des espèces qui ont été introduites volontairement, hein, à des fins aquacoles. On a aussi des crustacés de diverses sortes, hein, bon, plus ou moins invasifs selon, et on a aussi des échinodermes et des acidies, je vous en parlais. Il y a même des poissons.
Alors, quels sont les critères pour qu'une espèce ainsi transportée, que ce soit sur la coque ou dans les eaux de ballast, puisse coloniser un milieu? Est-ce qu'il faut qu'elle corresponde à peu près aux mêmes latitudes à l'autre bout du globe? Est-ce que, par exemple, une espèce tropicale peut aussi tout à fait se développer dans nos eaux?
Écoutez, avec les espèces tropicales, on aura sans doute des réponses d'ici quelques années, compte tenu du réchauffement climatique. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des espèces dans la zone tempérée, ou dans le fond qui ne disposent pas, dans la zone tempérée océanique, qui ne disposent pas de coraux. Donc où les températures descendent, ne permettent pas effectivement la prolifération de ces organismes. Eh bien, on a des espèces actuellement qui sont des espèces dites tempérées chaudes qui remontent. Des petits bigorneaux, qu'est-ce qu'on a des bigorneaux pour l'essentiel, des algues aussi, des algues, oui, algues rouges.
Alors, donc, concernant maintenant plus particulièrement les côtes de la Charente, est-ce que certaines de ces espèces prolifèrent et perturbent nos milieux? Alors, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
On peut en citer 4 ou 5, voire plus, mais il y en a 5 qui sont vraiment emblématiques de nos côtes. Il y a l'huître, bien entendu, qui a été introduite à des fins aquacoles et qui prolifère de manière importante sur nos côtes, mais qui prolifère également sur les côtes du nord de la France et qui pose des problèmes en termes d'activité.
L'huître qu'on trouve, l'huître de Marais-Oléron.
L'huître creuse, l'huître de Marais-Oléron, l'huître de Bretagne, l'huître de tous les bassins, puisque l'huître en place a disparu, mais on en produit bon an mal an à l'échelle nationale que 1200 tonnes à peu près, et essentiellement au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel.
Donc il y a une partie de ces huîtres qui sont dans les cultures et d'autres qui deviennent sauvages.
Tout à fait. Oui. Ce sont ces huîtres sauvages qui prolifèrent tout le long des côtes et qui se retrouvent actuellement sur les côtes de Hollande et qui représentent une vraie espèce invasive.
Alors quel type de problème est-ce qu'elle pose justement cette huître sauvage?
Alors elle pose, elle fait reculer les populations de moules à certains endroits, elle crée effectivement, elle apporte d'autres organismes en même temps, elle crée des récifs qui présentent des dangers pour la navigation quand ça n'est pas contrôlé, tout ça, bien entendu. Et puis elle limite parfois la biodiversité, mais elle en crée aussi, puisque sous forme de récifs, on a quand même pas mal d'organismes qui y sont implantés au niveau des substrats durs. Donc vous voyez, c'est jamais tout blanc, tout noir, notamment avec l'huître.
Alors parlons maintenant de l'huître qui est cultivée, qui est importante sur le plan économique. C'est un véritable enjeu. Alors cette huître-là, on entend qu'elle a des problèmes, que sa pérennité à l'avenir n'est pas assurée. Pour quelle raison? Est-ce que celle-là, c'est une espèce qu'on a implantée qui a du mal à s'adapter à ce milieu-là ou chez d'autres?
Eh bien, elle a du mal à s'adapter dans la mesure où les conditions de milieu ne lui sont pas très favorables à l'heure d'aujourd'hui. Cette huître est porteuse. Cette huître est porteuse d'un virus. Et lorsqu'elle est dans de mauvaises conditions, eh bien le virus se développe, le virus de l'herpès, et la fait crever. Donc on n'a pas actuellement de route de secours pour la remplacer, si ce n'est de tabler sur les souches résistantes qui permettraient effectivement de la maintenir. Il y a une cinquantaine d'espèces d'huîtres au monde, mais on n'a pas d'huîtres convenables à implanter sur nos côtes métropolitaines.
Alors une autre espèce qui a été également implantée, c'est la palourde japonaise. Alors elle, est-ce qu'elle se sent bien dans le milieu charentais?
Si elle se sent bien, elle se sent même très bien, puisqu'elle fait le bonheur des pêcheurs à pied. Elle a proliféré depuis les années 85, qui sont correspondent à la date de son introduction, à des fins aquacoles, et depuis, elle prolifère tout à fait bien dans le milieu, et elle a même fait péricliter. Il y a pas d'études précises qui ont été faites là-dessus, mais on le voit bien en tant que pêcheur, on ne pêche quasiment plus qu'elle, à 90% l'espèce autochtone ayant quasiment disparu.
Alors là, est-ce que ça pose des problèmes économiques? Parce que si on l'a implantée, c'est pour la cultiver, mais si on la trouve en abondance en allant pêcher...
Vous avez tout à fait raison, ça pose des problèmes économiques, puisqu'il y avait une mise en place à l'époque où on croyait dur comme fer que l'aquaculture allait sauver effectivement la pêche. On pensait que qu'on avait là effectivement un créneau pour développer une activité aquacole intéressante, ce qui s'est fait pendant une dizaine d'années, pas plus. Et puis après, pour les raisons que je viens de souligner, doublées de maladies, eh bien, cette espèce a proliféré sur le milieu. Elle a mis en péril l'activité vénéricole, qui ne persiste plus quasiment chez nous.
On a parlé des huîtres et des apins lourdes. On n'a pas parlé des moules. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire pour la culture des moules?
Les moules se portent très très bien, que ce soit la moule atlantique, Mytilus edulis, ou que ce soit la moule de Méditerranée, Mytilus galloprovincialis, qui n'a pas des tailles fort importantes chez nous. Elle est en très bonne santé au niveau de la Galice, par exemple.
Est-ce que la pêche des crustacés, par exemple, est concernée par ce problème d'invasion?
Oui, il y a des espèces qui sont invasives. Il y a eu un petit crabe qui est arrivé sur nos côtes, enfin plusieurs même, mais enfin surtout Hemigrapsus tacanoi, un petit crabe là encore qui nous vient du Pacifique, qu'on croyait mettre en compétition avec le crabe vert, mais en fait, justement, après avoir proliféré, actuellement, il serait sans doute en déclin. Donc il n'y a pas de souci véritablement. Il y a une crevette aussi, une crevette d'estuaire qui est introduite, la Palaemon macrodactylus, qui effectivement serait en compétition avec la crevette blanche des fleuves.
Alors parlons maintenant des espèces qui ont été introduites involontairement. Attardons-nous sur trois de ces espèces qui sont plus spécifiques. Il y a la sargasse, le crépidule et le bigourneau perceur japonais. Alors parlons tout d'abord de la sargasse. Il s'agit d'un végétal.
Alors il s'agit d'une grande algue brune qui est cousine de la sargasse, de la mer des sargasses, et qui effectivement a été introduite au niveau des années 73 par des transferts d'huîtres au niveau de nos côtes. Elle est sur toutes les côtes de métropole actuellement, et effectivement, elle a posé de sérieux problèmes, notamment au niveau du golfe du Morbihan, de l'étang de Thau, et plus près de nous, au niveau du Fier d'Ars, où il a fallu faire appel au département militaire du Train pour effectivement l'éradiquer. Actuellement, elle est cantonnée essentiellement dans les eaux qui sont moins turbides, et elle s'est bon an mal an adaptée avec les autres espèces. Mais au printemps, quand même, elle pose des problèmes parce qu'elle se développe de manière importante et fait mourir les petites algues. Mmh. Mais en contrepartie, elle sert d'abri pour certains poissons, mais d'abri temporaire.
Alors pourquoi est-ce qu'elle pose problème? C'est qu'elle est occulte, elle empêche la lumière de passer?
Exactement, elle occulte et elle fait disparaître d'autres espèces. Elle diminue la biodiversité quelque part.
Est-ce qu'elle gêne également la navigation?
Elle gêne la navigation. Dans le Fier d'Ars et ailleurs même, elle bloquait les hélices des moteurs hors bord. Et c'était vraiment une plaie.
Donc là, la solution pour ce type, c'est l'éradication. Et ça se passe en allant la ramasser, l'arracher?
L'arracher avec prudence parce qu'elle bouture, elle est capable de reproduction asexuée et elle va se développer d'autant mieux si vous laissez les différentes parties. Là, si vous la coupez en petits morceaux, ben vous faites autant de nouveaux pieds de sargasse qui vous poseront d'autant plus de problèmes.
Alors parlons maintenant du crépidule.
Alors c'est la crépidule, c'est un petit gastéropode qui est une patelle qui a un peu tourné quelque part et qui nous vient effectivement, elle a été introduite les premières fois au début du siècle précédent en Angleterre. Mais elle a surtout été introduite de manière sérieuse lors du débarquement au niveau en 1944. Elle était collée, puisqu'elle nous vient des côtes est d'Amérique du Nord, elle était collée sur les péniches de débarquement. Donc elle a proliféré au niveau des côtes normandes et sur nos côtes charentaises, elle est arrivée aux alentours des années 70 et depuis elle prolifère énormément puisqu'il y a bon an mal an à Marraine-Oléron une population de l'ordre de 5000 tonnes qui est en concurrence avec l'huître au niveau alimentaire et qui pose des problèmes au niveau sédimentation puisqu'elle fait des exhaussements au niveau des sols.
Donc elle alimente enfin, elle fait des sécrétions.
Alors c'est un gastéropode particulier parce qu'il est filtreur et il ne possède pas de radula. Il envoie comme une espèce d'épervier gluant. La radula c'est une petite langue avec des petites dents qui permet effectivement d'attaquer des éléments un peu plus solides. Là non, elle fonctionne comme une huître en envoyant un épervier pour récupérer les petites particules qui lui servent de nourriture et elle excrète surtout des fesses qui sont extrêmement denses et qui participent à une sédimentation qu'il est difficile de remettre en suspension.
Alors parlons maintenant du bigorneau perceur japonais. Comment est-il arrivé? Quel type de problème pose-t-il?
Alors lui, ça fait l'objet d'une thèse. Ce bigorneau perceur est arrivé sans doute aux alentours de début 90 et vers 95, il posait de sérieux problèmes à l'ostréiculture puisque il y avait des mortalités d'huîtres importantes, notamment au niveau des parcs à plat.
Alors, ça peut être d'huîtres? Pardon? Il empêche les huîtres de voler?
Non, il n'empêche pas les huîtres, il les tue en perçant la coquille et en allant s'alimenter des chairs de l'huître. Il a une
C'est un
espèce de...
prédateur de l'huître.
Ah, c'est un prédateur notoire de l'huître, hein, et bien plus important que le bigorneau perceur que nous avons ici,
Non,
l'autochtone.
il y a un
Alors, il y en avait
autochtone.
déjà un, mais avec qui le monde ostréicole s'adaptait et les populations d'huîtres vivaient en silo, si je puis dire, en bonne intelligence. Tandis que là, on a une espèce extrêmement prolifique et très agressive, qui se reproduit parfaitement bien et qui pose des problèmes, qui a fait disparaître les parcs alpins. Les autochtones sont obligés de se mettre en culture surélevée. Et il est capable de monter le long des pieds des tables ostréicoles et d'aller dans les poches d'huîtres pour s'alimenter. Ah, c'est une...
Contrairement,
Biologique, c'est une idée.
contrairement à l'espèce autochtone, qui n'est pas capable de
Tout
ce
à
genre de
fait,
prouesse.
tout à fait. Et qui n'est pas capable, lui non plus, dans son aire d'origine. Au niveau de son aire d'origine, il est calme, il n'a pas du tout
Donc là, il s'est adapté,
l'importance, il
on
s'est vraiment
améliore,
adapté
il
et
a amélioré ses
développé. Ah oui,
performances.
tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu comme nous, hein, quand on change de milieu, on peut péter la forme, si je puis dire. C'est son cas.
Alors, dans certains cas d'espèces invasives, on a pu remarquer qu'il y avait une période d'adaptation, de prolifération, et puis qu'au bout d'un moment, eh ben, ces espèces finissaient par diminuer, puisqu'un prédateur arrivait, ou le milieu se rééquilibrait, si je puis dire. Est-ce que dans le cas des espèces qu'on vient de citer, on peut s'attendre au même type d'évolution ou pas?
Écoutez, pour le crabe dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui, pourquoi pas. Mais pour la crépidule, l'huître, bon ben oui, il y a un système, c'est une régulation, le fait qu'elle soit malade. Là, c'est lié quand même à des mauvaises qualités d'eau pour l'essentiel. Hein. Donc, c'est pas un bon exemple. Les crépidules donc, se développent énormément. Qu'est-ce qu'on a vu? La sargasse, ben, ça s'est calmé, effectivement, après une prolifération extrêmement importante. Il y a peu de soucis. Donc, c'est vrai que ça suit. Est-ce que ça va disparaître? J'en doute. Hein. J'en doute.
Alors, venons-en maintenant aux possibilités qu'il y a de contrecarrer ce type d'invasion. On a parlé d'éradication, notamment dans le cas de la sargasse, où l'homme est intervenu pour tenter d'éradiquer. Alors, il y est en partie parvenu, sauf comme vous l'avez dit, dans une certaine zone. Est-ce que c'est une méthode concernant, par exemple, je ne sais pas moi, le bigorneau perceur japonais qui est envisageable de mettre en place, ou il faut penser à d'autres types de stratégies?
D'autres types de stratégies, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la mesure où l'espèce est bien implantée. Effectivement, la section régionale conchylicole à l'époque a mis en place, a invité le monde ostréicole et le monde des pêcheurs de loisirs à récupérer ces bigorneaux, moyennant une petite rétribution de 1 euro par kilo. Et c'est vrai que ça a marché, ça fait diminuer effectivement les populations sur place, mais l'espèce est toujours là, et brûlage des pontes. Voilà, alors bon an, mal an, on fait
Le
avec,
brûlage des pontes,
mais.
c'est-à-dire?
Eh bien, c'est un organisme qui fait à peu près, un couple fait à peu près 3000 pontes, 3000 petits sacs dans lesquels se développent des petits bigorneaux qui n'auront pas de phase pélagique, qui vont directement se développer sur le milieu. Donc, c'est vraiment là que ce sont les petits. Donc, conclusion, si vous brûlez ces pontes, eh bien, vous allez maîtriser, entre guillemets, la population.
On peut repérer facilement
Ah, tout à
les
fait,
pontes.
tout à fait. Les pontes et les petits sacs à section triangulaire, jaune, c'est magnifique, hein, remarquez. Mais il faut les brûler. Et à ce moment-là, ils sont quand même relativement cachés. Parce que dans le monde ostréicole, il y a quand même des entourages constitués de pierres au niveau des parcs, pour l'essentiel. Et ma foi, ils sont à l'abri, ces pontes sont mises à l'abri sous ces pierres. Donc il y a tout un travail. Il faut que le monde ostréicole se l'approprie, cette éradication. Sinon, ça ne se fera pas.
Alors, y a-t-il un moyen de les contrôler, de mesurer cette prolifération? Est-ce que ça demande beaucoup de moyens? Est-ce que c'est possible avec les infrastructures qui existent sur le littoral, sur la côte?
Ça dépend des espèces, hein. Ça dépend des espèces. Par exemple, les huîtres sauvages, il y avait eu des moyens qui avaient été mis en place pour les évaluer en intéressant à la fois le monde des sciences, enfin les scientifiques, et puis également les étudiants qui travaillaient sur l'aquaculture. Et on a vu à ce moment-là qu'il y avait 20 000 tonnes d'huîtres sauvages à Maraine-Oléron autour des années 95 qui étaient en compétition avec une biomasse en place qui était de l'ordre de 80-90 000 tonnes. Et c'est pas négligeable, 20 000 pour 80 000.
La prévention est-elle une solution
Bah, bien
possible?
sûr, ça serait la meilleure solution en termes de coûts. Mais bon, il y a des lois, faut jouer le jeu, et il faudrait surtout que ça passe dans la conscience collective, ce qui est encore pas tout à fait le cas.
Eh bien, Jacques Pigeot, merci pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes du lien, donc vous nous allez nous rappeler la signification de l'acronyme
Littoral, environnement et société
à l'Université
de
de La
La
Rochelle.
Rochelle.
Merci beaucoup.
Merci.